machiavélisme quelquefois revendiqué par la politique, il est beaucoup plus généralement refusé officiellement et reproché à la politique. Et je crois que, en ce sens-là, Machiavel inaugure une époque de la politique, une époque de la politique placée sous le signe des reproches qu'on lui fait. Nous y sommes toujours. Ce qui est extraordinaire d'ailleurs quand on y songe, c'est que l'existence d'un pouvoir démocratique, représentatif, élu par les citoyens, n'y a rien changé.
Au contraire.
Les hommes d'État démocratique, portés par le suffrage de leurs concitoyens, sont tout aussi poursuivis par le reproche de machiavélisme que des princes absolus qui ne devaient leur pouvoir à l'hérédité dans le meilleur des cas, ce qui est une manière de règle, ou à leur habileté dans la conquête du pouvoir. Ça, c'est l'exemple des princes de Machiavel, qui sont des princes nouveaux, qui ne doivent qu'à eux-mêmes la fortune qui les a mis en scène.
À lire l'article d'Ulrich Beck dans Le Monde, daté du 13 novembre dernier, Angela Merkel, nouveau Machiavel, on se plaît à penser que Marcel Gauchet, qu'on entendait là dans un Radio Libre sur France Culture en 2001, n'avait pas tout à fait tort. L'époque de la politique est placée sous le signe des reproches qu'on lui fait dès qu'on parle de Machiavel. C'est comme ça qu'on l'entend, puisque dans cet article, le sociologue et philosophe allemand disait en substance que la chancelière allemande reprenait les préceptes que Nicolas Machiavel, penseur du XVIe siècle, avait donné au prince, et il avait même inventé le modèle du machiavélisme. On y reviendra. Alors apparemment, sans se concerter, quoique, les éditions Nouveau Monde ont décidé de rééditer le grand œuvre de Machiavel dans une version illustrée, toujours traduite par Jacqueline Risset, présentée par l'historien Patrick Bouchon, et c'est la raison pour laquelle nous vous l'avons invité pour l'occasion. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes historien, maître de conférences en histoire médiévale à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'Italie du Quattrocento. On vous doit notamment un Léonard et Machiavel chez Verdi en 2008, et puis vous avez dirigé l'histoire du monde au XVe siècle chez Fayard en 2009. Et puis sont avec nous, bien entendu, Gérard Mordilla. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Et puis Pascal Horry. Bonjour,
bonjour
Pascal.
Caroline.
Alors justement, c'est intéressant parce que c'est sous la forme d'un beau livre que paraît à nouveau ce Machiavel, ce prince de Machiavel. C'est inédit, un beau livre pour le prince de Machiavel, Pascal, à votre connaissance?
À ma connaissance, oui, mais je parle sous le contrôle de Patrick. Les éditions, les rééditions du prince, titre d'ailleurs, on peut discuter, mais appelons-le conventionnellement le prince, sont extrêmement nombreuses. Là, je crois que l'un des charmes, pas le seul du livre, c'est que c'est un beau livre au sens de la librairie, papier glacé, très riche iconographie. Il faut ici rendre hommage à Antonella Fenech-Croc, qui a supervisé non seulement le choix de l'iconographie, mais aussi son commentaire. Et une iconographie, et ça nous met déjà sur la piste, qui va de Léonard de Vinci, c'est la moindre des choses, Patrick Boucheron aurait certainement des choses à dire là-dessus, jusqu'aux jeux vidéo, puisque personnellement, en tant que critique de BD, je peux témoigner qu'effectivement, Machiavel apparaît de temps à autre au carrefour d'une BD d'aujourd'hui ou d'un jeu vidéo. Donc effectivement, l'iconographie nous mène sur déjà une première piste. Comment essayer de lire ou relire Machiavel? On prétendra l'avoir déjà lu, mais souvent, en fait, on a entendu parler que par oui-dire, hein, y compris beaucoup de nos hommes politiques, certainement. Comment le lire ou le relire en le resituant dans son contexte? C'est un texte. Et là, nous parlons d'un livre, mais c'est d'abord un texte qui est paru d'ailleurs de façon posthume, ce qui pose bien des problèmes, y compris à l'auteur, qu'il faudrait resituer dans son époque. Et ça, c'est le travail en particulier de Patrick Boucheron. Et en même temps, c'est un texte qui est, comme tous les grands textes, alors c'est le malheur, mais au total, je prends quand même le bonheur de Machiavel, qui est recouvert d'interprétations diverses et variées, souvent polémique, puisque ce que j'ai découvert dans l'introduction de Patrick Boucheron, c'est qu'en particulier le terme machiavélisme est quasi contemporain, 1576, c'est très précoce. Et ce qui est frappant aussi, c'est la qualité variée d'ailleurs des commentateurs, puisque ça va de, pour simplifier, Frédéric II, celui de Prusse, qui est très très hostile à Machiavel comme il se doit, jusqu'à Silvio Berlusconi, que je ne m'attendais pas à trouver là. Bon. En même temps, si on veut commencer par le Machiavel de son temps, ce qui est une distinction toujours un peu discutable, mais en même temps, commençons au moins par le commencement, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, on a affaire au texte, il faut toujours le rappeler, de quelqu'un qui sait ce que politique veut dire, puisqu'il a exercé des responsabilités importantes, on pourra les préciser, mais enfin disons qu'il fait partie des dirigeants de la République restaurée de Florence au début du XVIe siècle, et pas pendant 6 mois, mais pendant une quinzaine d'années. D'autre part, c'est un politique vaincu, Et ça, il faudrait faire une étude, ça a peut-être été fait, ça m'échappe là, mais de tous ces politiques vaincus qui ont réfléchi sur leur échec depuis Thucydide. Je mettrais Tocqueville dedans parce que d'une certaine façon, sa famille, c'est l'ancien régime, et ça l'amène à avoir un regard très aigu sur la démocratie en Amérique, en passant par Saint-Simon, j'entends le Saint-Simon des Saint-Simoniens. Ces vaincus de l'histoire qui se retrouvent avec le ciel qui leur est tombé sur la tête, ça leur donne une acuité absolument extraordinaire en ce qui concerne l'analyse qu'ils peuvent faire de leur temps. Et puis, c'est un artiste. D'abord, il est effectivement écrivain, auteur dramatique, etc. Et ce que montre bien en particulier, et la traduction de Jacqueline Risset, à laquelle il faut rendre hommage, hein, qui remonte donc à 2001, mais qui est très bien mise en valeur dans cet écrin, et le commentaire de Patrick Boucheron, c'est qu'on a affaire à un écrivain qui, d'une certaine façon, se jette à corps perdu comme dans la bataille. Hein, on pense à Uccello, aux autres. Il est dans la bataille de l'écriture. Et ça, c'est un des charmes de ce livre, c'est de nous montrer qu'on a affaire aussi à une plume, à une rhétorique, certes, mais aussi à une éloquence, et que peut-être d'une certaine façon, c'est par le biais de cette éloquence-là qu'on peut le mieux comprendre, ou ne pas mécomprendre le prince.
Gérard Mordillat.
Oui, c'est vraiment du beau boulot. C'est vraiment un très beau livre, très bien fait, très bien présenté, très bien annoté. Et c'est un plaisir, déjà, il faut le dire, c'est un plaisir d'avoir un tel beau livre en main. Et puis, je pense que Le Prince, comme c'est pour moi la caractéristique d'un grand texte, traverse le temps et toujours, finalement, notre contemporain. Et si vous permettez, je vais vous lire un passage, moi, qui a fait absolument ma joie. C'est dans le chapitre où Machiavel analyse comment les princes doivent tenir parole. Alors il dit « À quel point il est louable pour un prince de tenir sa parole et de vivre avec intégrité, non avec ruse, chacun peut le comprendre. Néanmoins, on voit par expérience de notre temps que les princes qui font de grandes choses ont peu tenu compte de la parole donnée et ont su, par ruse, circonvenir les hommes. Et à la fin, ils ont dépassé ceux qui se sont fondés sur la loyauté. » C'est marrant comme ça m'évoque des situations politiques contemporaines.
Patrick Boucheron, qu'est-ce qui fait, selon vous, justement, qu'on le voit encore comme un écrivain, puisque c'est comme ça que l'a présenté Pascal Horry? Qu'est-ce qui fait qu'il reste notre contemporain, tel que l'a présenté à l'instant Gérard Mordillat? Est-ce que c'est parce qu'on l'a mal compris? On retient souvent une formule toute faite qui est « la fin justifie les moyens », mais en fait, ce prince de Machiavel, c'était avant tout un art de gouverner. C'était une façon de montrer comment le prince peut conserver le pouvoir par ruse, par la vertu. Ça exigeait la vertu, oui. La virtus. Donc comment l'expliquer? Est-ce qu'on l'a mal compris ou est-ce qu'au contraire, cet art de gouverner traverse effectivement les âges?
Oui, on l'a mal compris, et oui, cet art de gouverner traverse les âges. Et oui, nous y sommes toujours, pour reprendre l'expression de Marcel Gaucher qu'on vient d'entendre. Il n'est pas exclu que le passage que vous venez de lire, Gérard Mordillat, soit une blague. Parce qu'il y a quelque chose, évidemment, dans Machiavel. Alors, c'est un écrivain, voilà, c'est ce que Pascal a dit, c'est un écrivain. Et c'est important de dire que le combat politique qu'il a à mener à ce moment-là, il doit se mener avec tous les moyens littéraires dont il a, dont la fortune l'a doté, parce qu'il écrit pas seulement que de la poésie, de la philosophie et de l'histoire, il écrit aussi du théâtre. Et la traduction de Jacqueline Risset est une traduction pour le théâtre. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'il doit mettre dans la bataille, c'est les moyens de la langue. Et dans ces moyens de la langue, il y a aussi de la dérision, il y a aussi de la provocation.
Et de l'humour. Oui,
et de l'humour, voilà. Une des manières de ne pas comprendre Machiavel, c'est de le prendre tout le temps trop au sérieux.
Pascal.
De l'humour, et on pourrait dire avec une expression qui est évidemment chez Machiavel, de la ruse, parce que moi, j'ai essayé, ce qui était évidemment une tentative désespérée, de reprendre Machiavel en essayant d'oublier les commentaires, y compris celui de Patrick Boucheron. Bon, évidemment, c'est quand même assez théorique comme principe. Mais je me suis dit, quand même, fondamentalement, s'il écrit principalement vers 1513, donc on est en train de fêter un 500e anniversaire quelque part.
Le prince n'est pas apparu en 1532.
Pas du tout, justement une des questions, c'est qu'il y a tout, en théorie, même si c'est un peu... la construction est un peu compliquée ou... paradoxal. Enfin, on peut dire que à ses yeux, c'était peut-être achevé. Il y a la dédicace, il y a une exhortation à la fin, et tout ça ne paraît pas. Bon, ça, c'est peut-être une autre question. Je ne sais pas si on aura le temps de l'évoquer, peut-être pas. Mais quand il écrit vers 1513, au moins la première version, mais l'essentiel, il y a plein de détails qui prouvent que c'est à ce moment-là. C'est sous le coup de la défaite. Et c'est quand même un républicain, précisons-le. Alors, on ne va pas entrer dans le détail de ce que c'est qu'un républicain, vaincu par les Médicis. Là aussi, c'est plus compliqué, mais c'est à peu près ça. Et on peut se demander, puisqu'il dit clairement, je vais vous parler d'un certain type de prince et de principauté, et les autres, j'en ai déjà parlé. D'une certaine façon, il y a un sous-texte quand même. Et alors, mon hypothèse naïve en reprenant le texte, c'est de me dire, bon, Machiavel, c'est quand même un vaincu. Il n'a pas envie, d'un point de vue machiavélique ou pas, il n'a pas envie d'être complètement passé à la moulinette, donc il se rallie. Mais il n'en pense pas moins. Et il y a quand même derrière ça un républicain qui a déjà écrit sur Tite-Live et qui renvoie, mais évidemment, il ne peut pas citer le texte, qui renvoie à Tite-Live. Et puis pendant ce temps-là, avant-le, il fait aussi sa cour à l'histoire avec sa grande hache qui prénomine. Donc, il y a un sens de l'histoire auquel il n'adhère peut-être pas, mais qu'il constate. Et là, il donne incontestablement des règles à ce nouveau sens de l'histoire. On ne peut pas le nier non plus.
Gérard.
Il y a un terme italien qui, à mon avis, désigne parfaitement Machiavel, qui est à la fois un compliment et une critique quand on dit de quelqu'un « est furbo ». Fourbe en italien, c'est pas fourbe, c'est pas fourbe dans le sens français, c'est malin, rusé, intelligent, capable de faire les choses. Et si quelqu'un est fourbe, c'est bien Machiavel, à mon avis.
La définition de machiavélique, l'adjectif qui est utilisé dès 1578 par le Robert, c'est qui, par sa ruse et sa perfidie, est digne des doctrines de Machiavel, voire perfide, machination, astucieux, rusé. Oui, Patrick Boucheron.
C'est le isme et la bonne définition du oui-dire dont parlait Pascal Horry. C'est évidemment un masque, le machiavélisme. Et on a appris à détester Machiavel bien avant de le lire. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas le lire puisqu'il avait été mis à l'index, évidemment, par la censure pontificale. Vaincu de l'histoire, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Il écrit non seulement sa propre défaite, son étrange défaite, je dirais, pour reprendre évidemment le titre de Marc Bloch. Parce que l'étrange défaite, c'est pas seulement la sienne propre qui s'est jetée à corps perdu dans la bataille politique. C'est un jeune en politique. Il n'a pas 30 ans quand il rentre aux affaires à Florence. Et d'une certaine manière, c'est une bizarrerie dans la scène politique italienne. Donc, c'est sa défaite. Il brûle de retourner dans le jeu. Il est prêt à beaucoup de concessions pour cela, et d'où effectivement l'ambiguïté du prince, qui est quand même adressé à un Médicis, ceux-là même qui l'ont exilé. Mais c'est la défaite du républicanisme, et puis c'est la défaite de l'Italie. De l'Italie qui est effectivement balayée dans l'effet de souffle des guerres d'Italie. Et d'une certaine manière, je dirais que la pensée politique italienne ne s'en est jamais remise. C'est-à-dire comment comprendre ce brio culturel et cette fragilité politique en même temps.
Écoutez précisément Alberto Assorossa, qui est critique littéraire, écrivain, homme politique et universitaire. C'était dans Une vie, une œuvre, le 24 janvier 1991.
Vous savez, Machiavelli est un des grands pères absents de l'histoire politique ou tout à fait de l'histoire italienne. Parce que l'histoire italienne a toujours introiettato la pensée de Machiavelli dans ses mécanismes plus profonds. Mais en même temps, les Italiennes ont toujours ou souvent refusé de reconnaître Machiavelli comme un de leurs grands maîtres.
Parce qu'il aurait vu trop clair, alors.
Oui. Nous avons été toujours combattus entre notre machiavélisme et notre fidélité intérieure, profonde, à l'hypocrisie de la contre-réforme catholique. Et je crois que cette situation ne soit pas finie aujourd'hui. Nous sommes toujours combattus contradictoirement entre la tentation de voir les choses telles qu'elles sont et la tentation de cacher cette réalité.
Patrick Boucheron.
C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, je repense à l'historien récemment décédé, Rico Hobsbawm, qui écrivait dans d'autres circonstances, rien n'aiguise l'esprit de l'historien comme la défaite. effectivement, on pourrait en faire une longue et triste tradition. La défaite de Machiavel l'oblige à inventer un langage nouveau. Et c'est ça qui est, je dirais, poignant. C'est-à-dire qu'arrive quelque chose qu'il n'a pas voulu, qu'il n'espérait pas et qu'il n'avait aucun moyen intellectuel pour nommer. Alors, au fond, qu'est-ce qu'un intellectuel ? C'est celui qui nomme avec exactitude les choses quand elles adviennent, pas qui invente des mondes idéaux. Et donc, ce que fait Machiavel dans Le Prince, c'est qu'il brise le miroir. C'est-à-dire qu'il n'explique pas ce que la politique doit être, ce que le gouvernement juste devrait être, mais ce qu'il est réellement, brutalement, dans sa nudité. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre d'où il parle.
À ce titre-là, vous diriez, Patrick Bouchon, que c'est l'ancêtre du réalisme politique ou plutôt l'ancêtre du cynisme ?
Pas cynisme. Après, le texte, il est lancé.
C'est ce que fait le Richebeck, hein, c'est pour ça que je le reprends. Alors, il accuse Merkel de cynisme. Et c'est à ce titre-là qu'elle serait la bonne élève de Machiavel. Mais d'où les mauvaises lectures encore, Pascal Horry.
Pardonnez-moi, on est vraiment dans l'usage commun d'un mot qui échappe à ses origines. Oui, bon, ce qui est intéressant là, c'est de revenir au texte, une fois de plus, comme dans d'autres domaines, religieux, etc. Et c'est vrai que ce qui est frappant dans le cas de Machiavel, c'est que déjà ses contemporains le prennent mal, quand même.
Ah, parce que mal,
à l'index...
Vous dites que c'est une pensée à contre-courant de son temps.
Et donc, on parlait de l'hypocrisie de la contre-réforme, vaste problème. En tous les cas, la contre-réforme, c'est une vraie réponse. L'hypocrisie de la contre-réforme, c'est autre chose. Mais c'est clair qu'aucun camp ne se reconnaît là-dedans. Hein, je citais le cas de Frédéric II. Bon, c'est tout à fait intéressant, même puisqu'on parle des Italiens. Il y a la manière dont Mussolini va relire ça, dont Craxi va relire ça, et dont Berlusconi va relire ça, est évidemment assez réjouissante, mais chacun va le tirer à lui. Et d'autres vont le rejeter. Mais le fait qu'il fasse désordre d'emblée, ça montre. Alors que théoriquement, si on lit le texte, comme j'ai essayé de le faire un peu là, au rat. Ça devrait conforter les Médicis, par exemple. Pas du tout, c'est mal vu de tous les côtés. C'est donc qu'il y a le ver dans le fruit.
Oui, parce que c'est aussi un texte très provocateur dans sa formulation. Vous disiez très justement, il dit les choses par leur nom quand il dit « le peuple désire ne pas être commandé ni opprimé par les grands, et les grands désirent commander et opprimer le peuple ». Et il montre ça, enfin, il dit ça, je dirais, comme en passant. Et en réalité, il dit là une chose terrible, quoi. Et je crois que c'est ça aussi, le fait que ce texte traverse le temps, c'est cette finalement incroyable sincérité. Et alors, sans doute, qui finit par être prise pour de la ruse, de la perfidie et tout. Mais non, je crois qu'il frappe très fort en disant « voilà ce que c'est, ne vous cachez pas les yeux, c'est comme ça ». Avec d'ailleurs des questions qui sont des questions philosophiques. Est-ce qu'on peut dire du bien, du mal ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible ? Et la question est là, à ce moment-là, politique, elle n'est pas morale, parce que pour lui, la seule question, c'est est-ce que le prince fait bien ou mal ce qu'il a à faire, et non pas dans les catégories de l'éthique.
Donc on en a fait l'ancêtre du cynisme, mais c'est beaucoup plus le réalisme qui serait
c'est pour ça que
le
c'est
mot adapté,
Patrick
Boucheron.
C'est pour ça que c'est plus intéressant. Si Machiavel nous laissait en héritage qu'un petit tas misérable de ruse, ça serait juste amusant.
Un radical socialiste.
Oui, et puis en même temps...
C'est méchant pour les radicaux socialistes quand même, mais bon.
Ce qui est certain, c'est que... Alors, par exemple, pourquoi le texte, tel qu'il est réédité chez Nouveau Monde, est environné de la culture visuelle de la Renaissance ? Eh bien, parce que je pense que ce voisinage n'est pas accidentel. Le réalisme en peinture, d'une certaine manière, il rentre en écho avec la volonté de Machiavel de, pour le citer, aller droit à la vérité de la chose sans se laisser étourdir par l'éclat trompeur des mots. Donc, d'une certaine manière, dire les choses, c'est les rendre disponibles. Et après, cela ouvre la querelle des interprétations. Est-il bon ? Est-il méchant ? Pour qui écrit-il ? C'est une inquiétude qu'on trouve à l'œuvre, par exemple, chez les encyclopédistes. Diderot, Voltaire, Montesquieu vont se disputer là-dessus. Rousseau va dire que c'est le manuel des républicains parce que, d'une certaine manière, il dit comment les princes gouvernent, méchamment. Et ceux qui pensent qu'il donne des conseils aux princes se trompent parce que, d'une certaine manière, les princes n'ont pas besoin de conseils pour faire comme ils font.
Pascal Horry.
D'une certaine façon, grâce à un tel livre, je persiste dans la distinction livre-texte, on comprend bien que Machiavel est un portraitiste de la Renaissance. Il fait le portrait du prince comme d'autres font, Raphaël et d'autres font des portraits. Bon. Et ce ce qui est évident, c'est que la culture visuelle permet de comprendre la culture écrite, et que ça, c'est une leçon qu'il faut retenir pour d'autres rééditions. À mon avis, ça fonctionnerait dans tous les domaines, y compris pour des textes d'aujourd'hui où il faudrait joindre un DVD, par exemple. C'est absolument indispensable. Et quant à la lecture du siècle des Lumières, c'est vrai que là, on en a des traces aujourd'hui, bien entendu, devant l'embarras, quand on accuse Madame, c'est évidemment péjoratif, quand on accuse de machiavélisme Madame Merkel, c'est pas un compliment qu'apparemment Beck lui fait.
Ah, pour reprendre les propos de Marcel Gauchet en introduction, c'est toujours péjoratif aujourd'hui. On accuse toujours quelqu'un
c'est péjoratif
en démocratie
dans
de machiavélisme.
Pas en Italie.
Oui, et puis dans l'exception, bon, enfin une distinction peut-être aristocratique de l'exception commune. En même temps, ceux qui travaillent un peu sur Machiavel, bon, au
Mitterrand,
contraire,
Mitterrand, le Florentin, il détestait pas.
Mais effectivement, à partir du moment où chez Rousseau, chez les gens des Lumières, on voit bien qu'on veut le tirer quand même à soi, et on regrette qu'il y ait de mauvaises lectures, ou que le raisonnement de Rousseau, ça consiste, ça me paraît très 2012, enfin 2012 bien pensante, bien entendu. Et je m'en détacherai personnellement, ça n'engage que moi, de cette bien pensance-là. Comment, c'est forcément, ce Machiavel nous dit Rousseau, c'est un bon citoyen, c'est un honnête homme, donc il ne peut pas aimer les tyrans.
Oui, un honnête homme, alors là, il le dit clairement.
Honnête homme et bon citoyen. Et là, évidemment, il y a un petit vice dans le raisonnement.
Gérard.
Oui, on pense évidemment. Parce que les fausses lectures, finalement, pour moi, sont plutôt des espèces de lectures, je dirais, diététiciennes. On veut là chercher des recettes, des menus, mais c'est pas ça, quoi. Et il y a quelque chose dans Machiavel que, moi, en lisant le texte, parce que je crois pas que je l'avais jamais lu jusqu'au bout, et là, j'ai trouvé ça absolument génial, et j'ai pensé à la célèbre tirade de Marc-Antoine dans Jules César de Shakespeare, où Marc-Antoine fait l'éloge de ceux qui ont assassiné César, revenant sans cesse en disant « mais c'est un honnête homme ». Et donc, la critique est par l'éloge. Et je crois qu'il y a, enfin en tout cas, moi je l'ai lu comme ça, dans Machiavel, une critique des princes par l'éloge, et c'est là qu'il est superbement intelligent.
Patrick Boucheron.
C'est un texte entraînant. C'est un texte qui roule très vite et dont d'ailleurs Jacqueline Risset a su donner le tempo, la vélocité pour le théâtre. Et l'aspect théâtral est d'ailleurs très important parce que on voit bien comment ce rythme saccadé qu'a très bien décrit Claude Lefort, et Claude Lefort, Gaucher, donc on voit bien qu'il y a aussi toute une lecture antitotalitaire, je dirais, du prince. Elle est très éloignée de ce que dit Ulrich Beck. Alors bon, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour toutes les mésententes, d'une manière générale. On en fait ce qu'on veut.
Ça marche, hein, c'est repris, ça fait du bruit, le machiavélisme.
Alors le machiavélisme, ouais, voilà. Très bien. Mais ce qui est très bizarre, et là, j'avoue que je suis prêt à tout entendre, mais je ne vois pas d'où ça vient. Ulrich Beck dit, finalement, Merkel est machiavélique parce qu'elle dit ni oui ni non, mais toujours mouais. Alors là, je pense que ça ne résiste pas longtemps à l'oreille. Parce que ce que ne cesse de dire Machiavel, c'est ou bien, et sans cesse tranché. Et toujours décidé, c'est évidemment la politique est un art du rythme, on peut temporiser, mais il s'agit ensuite de décider brusquement et avec cette brusquerie efficace que crée l'événement.
Et c'est aussi un art de la guerre, parce que c'est des passages très importants dans le livre, toutes ces réflexions sur la guerre, sur la nécessité de la guerre, sur la pensée de la guerre pour le prince, même en temps de paix. Et donc c'est certain qu'il faut, comme lorsqu'on fait une guerre, avoir une stratégie, et que cette stratégie commande l'action, et donc ce n'est pas l'hésitation.
Alors justement, Patrick Boucheron, sur cette fameuse formulation de la fin justifie les moyens et de cet art de la guerre, pourquoi avons retenu ça et pourquoi est-ce faux ?
La fin ne peut pas justifier les moyens dans la pensée machiavélienne, puisque précisément on ne connaît pas la fin, puisque la politique n'a plus de fin qu'elle-même. C'est un art du tempo et c'est un art de décider à un moment donné dans l'aveuglement de la décision, puisque par définition, une décision politique est ignorante de ses conséquences. Donc, par définition, il ne peut pas y avoir une fin qui justifie les moyens, puisqu'on est dans une philosophie de la nécessité. Il s'agit juste, non pas de faire le bien, mais de faire bien ce qu'on a à faire.
Exactement.
Voilà, c'est ce que vous avez dit.
Exactement.
Et c'est cette intransitivité du bien, d'une certaine manière, c'est la clé de Machiavel.
Alors, vous parliez de la langue tout à l'heure, de cet art du rythme. Vous disiez même que ce texte était un texte théâtral. Il se trouve que Anne Torres l'a mis en scène, ce texte. C'était en 2001 au Théâtre des Amandiers de Nanterre, avec Anne Alvaro, Jérôme Kicher, David Lescaut, Alessandra Chichiouna et Agnès Sourdillon. On en écoute un extrait.
Donc, Celui qui juge qu'il doit nécessairement, dans son nouveau principat, s'assurer contre les ennemis.
Se gagner des amis.
Vaincre par fortune ou par fraude.
Se faire aimer et craindre du peuple.
Suivre et révérer par les soldats.
Détruire ceux qui peuvent ou veulent te nuire.
Renouveler par des modes nouveaux les anciennes lois.
Être sévère et agréable, magnanime et libéral.
Détruire la milice infidèle, en créer une nouvelle.
Maintenir l'amitié des rois et des princes, de telle sorte qu'ils devront te gratifier de bonne grâce ou t'offenser avec crainte.
Celui-là ne peut trouver des exemples plus frais que les actions de cet homme.
Et c'est le texte de Jacqueline Risset, bien sûr. Pascal Horry.
Mais je pense que Machiavel, dont on a dit à l'instant qu'il pouvait être un peintre de la Renaissance, c'est aussi un auteur dramatique. D'ailleurs, il l'a prouvé, il a écrit La Mandragore. Et d'une certaine façon, il a de l'empathie pour tous ses personnages, donc y compris pour le prince. Et c'est pour ça que la question du point de vue est très difficile à trancher, me semble-t-il, parce que Machiavel est successivement le peuple et le prince, par exemple.
Merci beaucoup Pascal Horry, merci Gérard Mordia, merci à vous Patrick Boucheron. Il faut donc lire, relire Machiavel, Le Prince, dans cette traduction de Jacqueline Risset, présentée par Patrick Boucheron, illustrée par Antonella Fenech-Croc aux éditions du Nouveau Monde.